Bien, bonjour, bonjour à tous. Donc je vais aujourd'hui intervenir sur la question de l'apprentissage, enfin de l'acquisition-apprentissage de la langue de scolarisation donc par des élèves plurilingues. Et je vais proposer un certain nombre de pistes de réflexion. Je ne prétends pas évidemment être exhaustive et traiter le sujet, l'épuiser donc ce matin. Je voulais simplement dire que par rapport au moment où j'avais donné ce titre, donc j'ai reçu les réponses que les participants à la formation ont données au questionnaire qui leur avait été proposé, ce qui fait que j'ai un peu modifié le contenu de mon intervention en intégrant des éléments issus de copies d'élèves. Je vais peut-être pas. Il m'a semblé que c'était plus pertinent par rapport aux questions qui étaient posées dans, enfin aux questions ou aux réflexions qui étaient formulées donc dans ce document qu'on m'a proposé. Bien, donc je vais me présenter. Donc du point de vue de l'enseignement, je suis professeure de sciences du langage à l'université de Cergy-Pontoise depuis 2007. J'interviens dans la formation des enseignants depuis 1998, puisque j'ai été responsable de la préparation au CAPES de lettres modernes dans cette même université, entre 1998 et puis 2010. Et depuis 2010, je suis responsable du master enseignement des lettres, qui est d'ailleurs maintenant depuis un an, qui connaît un nouvel intitulé, puisqu'il s'agit du master MEF. PLC, lettres, première année en l'occurrence, puisque ça n'est que la première année, enfin, seule la première année est ouverte, donc a été ouverte à la rentrée dernière. Alors, ceci étant, du point de vue de la recherche en didactique du français, mes travaux portent principalement sur l'apprentissage du français par des élèves plurilingues, en milieu ordinaire et au collège. C'est là, et d'ailleurs, les extraits de copies d'élèves que je vais vous proposer sont des extraits de copies d'élèves de collège. Je n'ai aucun corpus issu de l'école. Hein. Donc, je préfère le préciser tout de suite. De manière aussi à cadrer mon champ d'expérience. J'ai été moi-même dans une première carrière professeur dans le second degré, mais j'étais professeur de français en collège, donc je n'ai pas d'expérience directe de l'école élémentaire. Donc c'est surtout de ce point de vue-là que je vais parler. Donc par ailleurs, mes recherches portent également sur des contextes scolaires situés dans des zones fragilisées d'un point de vue socio-économique. Enfin, je préfère dire les choses de manière périphrastique pour éviter tout élément qui pourrait connoter les contextes que j'aborde. Et par ailleurs, je travaille également en sociolinguistique et je m'intéresse aux variations du français, au français non normé. Donc c'est la raison pour laquelle j'aborde ces copies dont je vais vous parler dans une perspective sociolinguistique variationniste. Là aussi pour cadrer du point de vue théorique mon approche. Je travaille sur les Français non normés, je travaille également en sociolinguistique urbaine sur la banlieue et je dirais que j'ai aussi une approche sociolinguistique sur la question. Donc voilà pour le cadrage théorique. En ce qui concerne le contenu à proprement parler de mon intervention, elle va porter sur les liens à construire entre la variation sociale, c'est-à-dire je vais aborder les productions linguistiques, en accordant de l'intérêt à l'origine sociale de ceux qui les produisent. Cette dimension, l'impact, si vous voulez, du milieu social sur la production linguistique est évidemment un élément que je traite dans mon intervention. Je construis donc des liens entre la variation sociale et l'enseignement du français. L'enseignement du français d'un point de vue didactique, mais aussi institutionnel, enfin je pense que c'est également une question qu'il faut se poser. Et également sur la reconnaissance et la légitimité à accorder aux langues des migrants. Alors, cadrer, avant de commencer, pour plus de clarté, je vais cadrer Ce que je vais aborder de manière à ce que ce soit plus clair. C'est ce que j'ai tenté de mettre en phase avec les réponses au questionnaire qu'on m'a proposé. Donc pour la variation, je vais aborder les questions liées aux difficultés d'acquisition de la langue de scolarisation qui résulteraient d'un écart entre les variétés orales du français parlées par les élèves et cette même langue de scolarisation. Donc, ce qui m'amène à poser la question de l'existence d'un conflit entre une forme orale de pratique sociale et les formes écrites et standardisées de l'école. Donc, je vais partir de l'hypothèse qu'il y a un phénomène d'ignorance et de distance réciproque entre les enseignants et les élèves, c'est-à-dire que chacun ignore le système linguistique de l'autre. Ça, c'est le postulat de base. En ce qui concerne les pistes, j'essaye d'éclaircir les implicites, si vous voulez, sur lesquels mon intervention est construite. En ce qui concerne la remédiation qu'on peut proposer, l'idée que je vais suggérer, c'est qu'il convient de partir du français que parlent les élèves pour les amener au français scolaire, et pas l'inverse, en construisant un système d'opposition. Je suggère de s'appuyer sur les compétences linguistiques des élèves, même si elles sont rudimentaires, en cherchant à agir sur elles. Ce qui m'amènera à remarquer l'inadaptation de l'outillage grammatical scolaire. Le manque d'outils pédagogiques mis à la disposition des enseignants pour prendre en compte ces variétés orales parlées par les élèves. Ensuite, sur le plan de la langue, je dirais que je vais me borner au système, si vous voulez. L'implicite de ma communication, c'est que ce sont toujours les mêmes zones de vulnérabilité du français qui constituent des difficultés pour les élèves. C'est-à-dire, en gros, il y a trois domaines. La phonétique phonologie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'accentuation, mais moi je ne vais pas aborder évidemment ici des problèmes phonétiques parce que je n'ai pas le matériel pour pouvoir faire l'exposé de manière pertinente. Je vais aborder des questions de morphologie rapidement, et notamment la question des accords de base dans le groupe nominal, la question des homophones grammaticaux. Qui sont aussi largement, toutes ces questions sont largement récurrentes dans les copies. Et en syntaxe, j'aborderai aussi rapidement la question des oppositions entre le système oral et le système écrit. Mais très rapidement, parce que je vais aussi intégrer une dimension qui m'a paru intéressante par rapport aux réponses au questionnaire, qui est l'étude d'une copie. Alors, je ne vais pas partir, dans le cadre de l'étude de cette copie, je ne vais pas partir d'une mise en évidence de dysfonctionnement linguistique à proprement parler, mais je vais montrer en quoi une rédaction d'élèves de 6e peut, alors qu'elle est non pertinente du point de vue linguistique, c'est-à-dire qu'elle offre un grand nombre de dysfonctionnements et d'infractions au code orthographique, à la syntaxe, etc. Je vais essayer de mettre en évidence qu'en fait, elle répond parfaitement aux critères l'écriture d'un récit. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est de montrer qu'en réalité, ce qui pose problème, c'est la maîtrise de la langue, mais que par contre, la maîtrise de l'exercice en tant que tel, si on se base uniquement sur la question de l'écriture d'un récit tel qu'on peut le proposer dans une classe de 6e, eh bien là, les élèves, puisque je vais mon corpus propose des extraits de plusieurs copies, les élèves se montrent parfaitement à même de respecter les consignes qui leur ont été données. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai intégré, si vous voulez, par rapport à ce que j'avais prévu initialement, ce qui fait que du coup je vais réduire la partie purement linguistique pour aborder cette question qui relève davantage de problèmes de pragmatique, enfin si vous voulez, qui se situe sur un autre plan. Alors, avant de commencer, je voudrais définir la variation, ce qu'on appelle la variation en sociolinguistique. C'est la capacité d'une langue à présenter des formes différentes selon les lieux, donc c'est ce qu'on appelle la variation diatopique. Selon les époques, c'est ce qu'on appelle la variation diachronique. Et selon les milieux, la variation diastratique. Alors, par exemple, des formes différentes selon les lieux, la variation diatopique, enfin, pour prendre un exemple basique, ce serait un chicon et une endive. Pour la variation diachronique, je ne sais pas, sans ça, c'est super, par exemple, pour prendre des termes très familiers. Et les milieux, donc la variation sociale, c'est la plus facilement repérable. Donc, je ne donne pas d'exemple, je pense que c'est assez clair. Alors, je voudrais aborder mon premier point, donc sera le suivant. Variation et enseignement du français, constance des représentations négatives et des amalgames, et dans un premier temps, enseigner la variation. Et enseigner la variation, c'est risquer d'enseigner une langue appauvrie. Et ça, c'est un stéréotype qui est largement répandu. Et je voudrais prendre, je dirais, pour exemple, ces propos d'Azouz Béga et donc de Rossini. Donc, Azouz Béga voit dans la langue des banlieues une maîtrise appauvrie du français, qui est, pour résumer, l'emblème de l'allégeance aux pratiques défensives, je le cite, d'un groupe minoritaire au plan linguistique. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, je lis la citation, « Le langage de ces jeunes des quartiers nous est apparu après coup comme un levier d'exclusion supplémentaire. Pour nous, la question de l'enfermement, de l'exclusion ou de la réclusion est également pertinente du point de vue linguistique. Les textes écrits par les élèves des collèges sont évocateurs de sérieux problèmes de maîtrise de la langue française qui font que, à terme, même les codes élémentaires de la communication avec la société sont méconnus. D'emblée, il nous paraît nécessaire de contenir les enthousiasmes qui décèlent dans la langue des banlieues une source d'enrichissement de la langue française. L'existence de ce symptôme reflète une stigmatisation supplémentaire pour des jeunes déjà pénalisés dans leur accès à la société du centre-ville, par leur adresse dans la cité et ou leur faciès. Le constat que nous faisons est celui d'un appauvrissement considérable des codes usuels de la communication. » Alors, si vous voulez, là, l'idée que développe Azouz Béga, enfin, je ne vais pas faire une explication du texte de Béga, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que les élèves donc sont enfermés dans cette variété orale de français qui est très repérable, bon, et qui, je dirais, est aussi visible par un certain nombre de pratiques sociales, musicales, par exemple, enfin, pas exclusivement linguistiques, musicales comme le rap, artistiques comme le hip-hop, etc. Donc je ne développe pas, donc c'est bien, je pense que tout le monde voit de quoi il est question. Donc je trouve que là, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de citer Azouz Béga. Je crois que là, il y a un amalgame entre, d'un côté, donc cette variété orale qui est une pratique sociale d'un groupe particulier, et puis les productions écrites d'élèves de collège qui ne sont pas tous, je dirais, insérés donc dans ce groupe-là. Et en fait, selon moi, les échecs à l'écrit des élèves ne sont pas liés donc à la langue des banlieues, parce que les procédés auxquels elle a recours, comme les troncations par exemple, les redoublements, n'apparaissent pas dans les copies d'élèves, pas plus d'ailleurs que le lexique que ces élèves utilisent. Et par ailleurs, il s'agit d'une variété orale qui a peu à voir avec la langue de l'école. Donc, si la maîtrise de la langue, pour reprendre ce qui nous occupe, par un certain nombre d'élèves, et notamment en banlieue, est bien réelle, et si Azouz Béga souligne un problème d'importance, elle ne doit pas pour autant occulter donc la question plus proprement scolaire de la maîtrise de la langue de scolarisation d'une part, et pour reprendre le sujet qui nous réunit ici d'autre part, la question de la maîtrise de la langue de scolarisation par des élèves plurilingues d'autre part. Donc, comme et cela ne doit pas non plus nous amener à sous-estimer l'importance cruciale de la maîtrise du français par l'ensemble des élèves concernés. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aussi citer Jean-Louis Schiss ici. L'importance cruciale de la maîtrise du français par les enfants et les adolescents issus de l'immigration pour la politique linguistique et éducative de la France, où il y va de la promotion de la langue française comme langue d'intégration à la communauté nationale et corollairement de la promotion du plurilinguisme comme valorisation des langues parlées en France et dans le monde. Donc, en réalité, si Jean-Louis Schiss met l'accent sur l'importance cruciale de la maîtrise du français, donc par les élèves dont nous parlons, il ne déconnecte pas l'importance cruciale de la maîtrise du français, de la promotion du plurilinguisme, de la valorisation des langues de la famille, et voire de la valorisation des langues parlées, je dirais, sur le territoire national et ailleurs, puisqu'il élargit son propos donc au monde. Hein, c'est là-dessus que se termine la citation. Alors, je voudrais aborder maintenant la question du parler des élèves, de la langue de l'école et de l'échec scolaire. Alors, le constat d'abord, je crois que le constat sur lequel moi je souhaiterais vraiment construire mon intervention, c'est que le français est l'outil de construction des savoirs permettant l'entrée dans la littératie. Alors là, je cite à nouveau Jean-Louis Schiss, mais il me semble que cette dimension, elle est essentielle. Alors, je prends des chiffres anciens. Des études qui ont été réalisées dans des collèges de banlieue. Alors là, je pense... Alors, les chiffres qui sont ici sur le diaporama sont des chiffres qui ont une dizaine d'années et qui sont issus de la direction de l'évaluation et de la prospective. Mais Danielle Manès, dans une recherche qu'elle avait faite sur les collèges également, a des résultats similaires. Enfin, si on croise des travaux même anciens, on arrive à peu près au même type de résultats, à savoir que le score moyen global des élèves hors ZEP REP aux évaluations nationales atteint 66,8%, soit 10,7% de plus que celui des élèves scolarisés en ZEP, soit 56,1%. Donc, je ne veux pas... il y a toujours un côté peut-être caricatural et polémique dans le fait de commencer à commenter des statistiques. Donc, je suis bien consciente du fait qu'on pourrait en discuter. Je ne souhaite pas ouvrir le débat sur ce point parce qu'il faudrait avoir, je pense, plus de données. Je trouvais simplement intéressant d'avoir ce type de résultat parce que ça permet de confirmer ce que dit Danielle Manès notamment. C'est à propos d'apprentissage des contenus linguistiques, c'est que pour les élèves de banlieue dont elle a étudié les productions écrites, à savoir des élèves de Seine-Saint-Denis, elle a quand même mis en évidence que l'apprentissage de l'orthographe, de la grammaire et du lexique représenter une difficulté certaine, cela ne les mettait pas, je dirais, dans une situation de réussite évidente et qu'il en résultait un coût social réel pour leur intégration professionnelle ultérieure. Si on ajoute à cela à ces difficultés que j'ai essayé de mettre en évidence des élèves par rapport à la maîtrise de la langue de scolarisation. Ce que je disais au début de mon intervention, à savoir que la distance entre les usages des élèves et la langue de l'école est une source de difficultés. Par ailleurs, la langue de l'école, il faut considérer que la langue de l'école, ça me semble important, et notamment si on construit, si je pense que c'était ce que m'ont demandé les organisatrices de cette formation en me demandant de parler de la variation, c'est bien qu'elles me demandaient aussi de parler, certes, de la variation sociale, mais aussi de la variété scolaire du français, c'est-à-dire que la variation, elle est aussi dans l'école, c'est-à-dire que la langue de scolarisation, c'est une variété en soi, et un certain nombre de chercheurs ont insisté sur la force d'homogénéisation linguistique de l'école. Donc, par ailleurs, cette variété scolaire du français, elle est caractérisée donc par une grande hétérogénéité de types de discours, par son caractère décontextualisé, abstrait et abondant en structures complexes. Alors, bon, je ne développe pas sur la variété scolaire du français, il existe toute une littérature scientifique sur la question, mais il est certain que cet écart donc est source de difficultés. C'est la raison pour laquelle Daniel Manès a pu parler à propos des textes des élèves, de textes inacceptables lors de la bienveillance paterne de l'école, mal segmentés, transcrits à l'image du continuum qu'est l'énonciation orale, sans aucune maîtrise du système verbal écrit ni des accords élémentaires. Ces textes obtenaient par le jeu d'évaluations critériées qui valorisent de pseudo-critères textuels un score honorable à l'évaluation nationale. Alors, ce que veut dire par là Daniel Manès, c'est qu'en réalité, les évaluations nationales masquent la réalité des difficultés des élèves face à la maîtrise de la langue de scolarisation. Alors Daniel Manès a un point de vue extrêmement tranché sur cette question, qui peut être jugé polémique. Je ne souhaite pas non plus rentrer dans cette polémique. Je le cite simplement pour montrer que il y a quand même dans la communauté scientifique un certain nombre de voix qui ont tiré une sonnette d'alarme. Alors après, on peut être plus ou moins en phase avec la vigueur de l'alarme, mais quand même, je crois qu'il faut retenir, si vous voulez, l'idée qu'il y a quand même cette dimension donc de mise en garde par rapport aux difficultés réelles des élèves. Alors, ce que je voudrais développer maintenant, c'est l'idée que le plurilinguisme n'est pas un obstacle à l'acquisition, apprentissage de la langue de scolarisation. Alors, je vais parler de plurilinguisme, mais il faut savoir que pour les psycholinguistes et les spécialistes de l'acquisition, ces chercheurs parlent davantage du bilinguisme. Bon. Et mon approche étant différente, je vais parler du plurilinguisme, mais je mentionne quand même, à titre informatif, si vous voulez, cette question terminologique. En tout cas, il est certain que, globalement, il y a un accord dans la communauté scientifique pour considérer que le plurilinguisme n'est pas un obstacle aux apprentissages langagiers. Les 30 dernières années ont vu développer les recherches sur les capacités cognitives, fonctionnelles des bilingues. Et le bilinguisme, terme utilisé par les psycholinguistes, ne doit pas être considéré comme un état problématique. Et même, on a pu montrer que les enfants bilingues ont des compétences métacognitives particulièrement développées, qu'ils possèdent une malléabilité et une souplesse cognitive supérieures à celles des monolingues. Bon, autrement dit, ça n'est pas un obstacle d'être plurilingue, c'est même un avantage. Enfin, si on en croit, si vous voulez, la littérature scientifique consacrée à ces questions. Et notamment parce que les plurilingues développent une souplesse cognitive qui les amène à traiter rapidement donc des situations langagières complexes. Alors, par contre. Et la raison, un élément que je voudrais quand même aborder, c'est que si globalement il est acquis que le plurilinguisme ne gêne pas la maîtrise, ne gêne pas la maîtrise de la langue, une maîtrise insuffisante de la langue 1 gêne l'acquisition de la langue 2. Il y a quand même un certain nombre de travaux sur cette question et c'est la raison pour laquelle, c'était une demande des organisatrices d'aborder cette dimension psycholinguistique, donc c'est la raison pour laquelle je la développe un peu. Certains chercheurs ont fait l'hypothèse que les difficultés des élèves à acquérir la langue de scolarisation viendraient d'une maîtrise insuffisante de la langue d'origine, considérée comme langue 1. Donc, en réalité, si vous voulez, moi, je rattache ça à mes propres travaux en disant, c'est parce que, en fait, il y a une fragilité identitaire et une insécurité linguistique dans la langue 1 qui est minorisée dans le contexte scolaire, que cette langue 1 n'est pas suffisamment maîtrisée et que les élèves ne sont pas placés dans une situation qui leur permet de maîtriser suffisamment leur langue 1, qu'ils ont donc, je dirais, ils sont donc confrontés à un ensemble de difficultés cognitives, mais pas seulement, qui sont aussi liées à l'insécurité linguistique, identitaire, etc. Donc je ne développe pas, ça n'est pas exactement notre sujet ici, et que cet ensemble de difficultés les gêne pour appréhender la langue 2, qui est pour nous ici la langue de scolarisation. Donc, les psycholinguistes vont plus loin et certains donc disent que la langue 2 se construit sur des bases mises en place dans l'acquisition de la langue 1. S'il y a un déficit dans l'acquisition de la langue 1, celle de la langue 2 est nécessairement menacée. Il y aurait donc des processus d'interdépendance dans l'acquisition des langues, des processus d'influence entre plusieurs systèmes langagiers, qui serait spécifique du développement cognitif des locuteurs bilingues qu'il faudrait prendre en considération. Alors moi, je ne suis pas issue d'une discipline cognitiviste, donc je ne vais pas développer plus longuement cette dimension, mais je pense simplement que ce qui est intéressant, c'est que une approche en didactique des langues et en sociolinguistique peut, je dirais, être en phase avec ces analyses que je viens de citer, dans la mesure où elles viennent confirmer tout ce qui relève de l'insécurité linguistique et des éléments liés à la fragilité identitaire que j'ai abordé. Et donc, toutes les situations de minorisation, stigmatisation des langues d'origine dans le contexte social d'une manière générale et dans le contexte scolaire où elles sont occultées en particulier, notamment dans des contextes fortement monolingues, bien évidemment, ne peuvent qu'être un obstacle non perçu, un obstacle latent mais bien réel, donc à la maîtrise de la langue de scolarisation. Alors, la lenteur des processus en langue 2 peut entraîner des déficits relatifs. Bon, je ne développe pas davantage cette dimension, mais il a été montré que, par exemple, les rédacteurs de langue 2 auraient plus de difficultés à planifier leur texte au niveau de la phrase sur le plan de l'orthographe ou de la syntaxe, ainsi qu'à les réviser. C'est attribué par la psycholinguistique à l'augmentation de la charge cognitive dans ce cas. Bon, si vous voulez, il faudrait, on n'a pas le temps ici, dans ce cadre restreint, d'analyser de manière détaillée le caractère complexe de ces approches, mais je voulais simplement attirer votre attention sur ces points en montrant que finalement, ce qui est intéressant, c'est de croiser les travaux et de croiser les différents champs des sciences du langage. Alors, ce qui est certain, et c'est ce sur quoi je conclurai ce premier point, c'est que sans remettre en question, bien évidemment, et ce n'est en aucun cas mon propos, le principe selon lequel la langue d'enseignement est le français, on peut se demander s'il ne conviendrait pas de reconstruire les catégories en prenant en compte la variable de la variation ou du plurilinguisme. En effet, un grand nombre d'élèves ayant connu une situation de mobilité, eux ou leur famille, d'une situation de mobilité, qu'elle soit ancienne, même qu'elle remonte à une génération par exemple, ou qu'elle soit récente, mais quand ils sont de nationalité française, en fait, ils ne sont pas visibles, hein, ils échappent en réalité à cette approche, et de ce fait, ils échappent aussi à toute analyse. Donc c'est la raison pour laquelle je pose la question de savoir si leurs difficultés scolaires, notamment dans l'apprentissage du français, ne résultent pas en partie de la méconnaissance par l'institution scolaire de cette situation plurilingue qui ne trouve aucune réponse adaptée en réalité dans l'institution. C'est la raison pour laquelle ma proposition est de changer de regard sur les productions des élèves. Et je suggère, par exemple en morphologie, de montrer... ma proposition, si vous voulez, c'est que les productions des élèves, elles sont complexes, en fait. C'est-à-dire que, je dirais que l'approche stéréotypée est très stigmatisante, hein, en matière d'orthographe, surtout dans un contexte où le purisme reste quand même une dimension de la conception du français qui est latente, enfin qui est circulante au moins dans l'Hexagone. Et donc mon approche va être la suivante. Mon hypothèse de départ, c'est que sous la diversité des erreurs d'orthographe, il y a une certaine systématicité malgré l'instabilité apparente, et que les productions des élèves, elles sont complexes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les rejeter, je dirais, d'une manière stigmatisante, en les considérant comme des infractions au code, mais au contraire, les considérer comme des hypothèses sur le fonctionnement de la langue, et par ailleurs, comme des productions complexes. Alors, en ce qui concerne la morphologie, on se dégage chez les scripteurs des tendances à supprimer les oppositions existantes entre le code oral et le code écrit et les redondances propres à l'écrit. Donc, il y a une tendance à l'uniformisation. Par exemple, pour l'expression du genre dans le groupe nominal, les élèves ont recours au déterminant comme seule marque du genre. Donc, par exemple, on va trouver dans les copies un homme très gentil, un garçon nommé Pierre, le vieil homme, un corbeau noir, le hibou perché. Alors, on voit là que l'accord dans le groupe nominal, effectivement, il est erroné. En revanche, du point de vue de l'interprétation et je dirais de l'information transmise, l'information sur le genre, elle est juste, parce que le genre masculin, il est bien présent. Il n'y a aucune erreur sur le déterminant. Et ça me semble important. Donc ça me semble important de noter que du point de vue de l'information, l'information est juste. L'infraction, elle porte sur le code. Je dis cela parce que souvent les capacités cognitives de ces élèves sont largement sous-estimées. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame entre finalement non maîtrise de l'orthographe et difficulté scolaire inévitable en quelque sorte, ou fatale. Donc moi je dis non. Il n'y a pas de fatalité de l'échec parce qu'il n'y a pas de maîtrise de l'orthographe. Ce sont des éléments, à mon avis, à dissocier complètement. Alors, un autre exemple également, le déterminant suffit à indiquer le nombre. Et donc, on voit ici que le déterminant est juste. Des adieux, ses amis, les autres, des bandits, les bandits, les bois, des busards. Alors, ce que je voudrais dire ensuite, c'est que ces erreurs de morphologie, elles se concentrent sur un certain nombre de points qui sont toujours les mêmes, que d'ailleurs, je pense, tout le monde connaît ici. Hein, ce sont les questions d'accord dans le groupe nominal, l'accord verbe-sujet, les homophones grammaticaux, etc. Enfin, je ne vais pas détailler. De ce fait, ceci étant... elles sont toujours les mêmes, mais elles sont nombreuses. De ce fait, elles contribuent au manque de lisibilité des productions des élèves et elles sont une entrave à leur réussite scolaire. Alors, par ailleurs, je voudrais faire émerger le point de vue des élèves, parce que finalement, on l'entend assez peu, en général, sur ces questions. Alors, Daniel Manès, je renvoie à l'étude que je citais précédemment, avait interrogé les élèves avec lesquels elle a travaillé. Et les élèves, en général, se déclaraient mauvais, faibles, nuls en orthographe. C'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes déjà une vision très négative de leur capacité en la matière. Et par ailleurs, Daniel Manès a fait le même constat que celui que je suggérais tout à l'heure, à savoir que les erreurs se massent sur des points critiques. Alors, je voudrais aborder maintenant le deuxième temps de mes productions, enfin de l'analyse que je souhaite proposer des productions des élèves. Et donc c'est ce que j'ai intégré, hein, donc, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la lecture du questionnaire, donc des réponses au questionnaire, des dysfonctionnements linguistiques qui masquent des compétences d'organisation textuelle chez les élèves, et notamment dans les textes narratifs. Alors, je vais partir du traitement d'une copie, enfin d'un sujet de rédaction par les élèves, dont le sujet était « Imaginez une nouvelle aventure d'Ulysse sur mer ou sur terre. Il devra affronter un être merveilleux, vous raconter à la première personne du singulier, je. » Donc ça, c'est le sujet tel qu'il a été proposé par l'enseignant dans sa classe. Alors, il s'agit d'une classe de 6e, d'un collège du Val d'Oise et d'un collège de zone difficile, donc celle dont je parlais au début de mon intervention. Alors, ce que je vais étudier, moi, c'est pas, je vais pas étudier toute la copie. C'est-à-dire que je vais vous proposer une étude de l'incipit, enfin, de ce qu'on appelle donc en narratologie l'incipit, c'est-à-dire le début du roman ou de la nouvelle, et donc en l'occurrence ici de la rédaction. Et donc l'incipit met en jeu un certain type de savoir, c'est-à-dire que c'est un fragment textuel qui commence au seuil d'entrée dans la fiction, qui présuppose la prise de parole d'un narrateur fictif, en l'occurrence puisqu'il ne s'agit pas d'une autobiographie ici, et symétriquement l'écoute d'un narrateur également fictif. Et cet incipit, il se termine à la première fracture du texte. Bon, je ne développe pas plus avant, hein, c'est une définition classique. Alors ça, c'est la définition, je dirais, savante, hein, de l'incipit. Là, je citais donc Andrea Del Lungo. C'est une définition qui est extrêmement classique et canonique dans les études littéraires. Le manuel utilisé par l'enseignant, renvoyer, si vous voulez, transposer au niveau didactique les mêmes contenus savants, à savoir que le récit se caractérise par cinq étapes ordonnées, la situation initiale, et donc la situation initiale, alors qui n'est pas appelée incipit dans le manuel, est définie comme un état stable qui présente les personnages, le lieu et l'époque de l'histoire. Cette situation initiale, elle est souvent écrite à l'imparfait de l'indicatif. Alors, donc, ce que je vais montrer maintenant, c'est comment font les élèves, en quelque sorte, hein, si vous voulez, ayant mis en place un peu le cadre théorique dans lequel cet enseignement se produit. Alors, je voudrais d'abord voir le découpage du texte, la délimitation de l'incipit et l'enchaînement avec la première péripétie. Alors, dans les textes des élèves, ils se font au moyen d'adverbes par des conjonctions « quand » et « lorsque » qui marquent la simultanéité. Par exemple, Ghislain, « J'avais encore quelques compagnons sur la nef. La plupart de mes compagnons avaient péri durant le voyage pour rentrer à Ithaque. Quand soudain, un de mes compagnons vint m'annoncer. » Et Amina, « Ô grand Alcinoos, merci de m'avoir hébergé. Si vous le voulez bien, je vais vous raconter une de mes plus incroyables aventures pour vous divertir. Par une douce nuit, je vogue tranquillement en mer et ma nef danse sur les flots. Tout d'un coup, un vent violent se déclenche. » Alors, en ce qui concerne les outils linguistiques utilisés, la première personne est à peu près généralisée. Alors, type de verbe, on a des verbes de parole. Donc, Alcinoos, roi des Phéaciens, me dit de lui raconter une histoire où je suis parvenu à survivre, pour Mohamed. Et Amina, au grand Alcinoos, merci de m'avoir hébergé. Si vous le voulez bien, je vais vous raconter une de mes plus incroyables aventures pour vous divertir. On a des verbes attributifs. Mohamed, j'étais sur mon navire avec mes compagnons. On a Evanzouk, j'étais prêt de rentrer chez moi par le vent de Circé. Des verbes d'action, Ulysse aborde l'île de Cythère où demeure le magicien Onyxas. Au niveau des temps utilisés, on a le présent. Ulysse, alors Laura, Ulysse aborde l'île de Cythère où demeure le magicien Onyxas. Il envoie quelques compagnons en exploration, mais Onyxas leur fait boire une drogue qui les transforme en moutons. Averti par un rescapé, Ulysse part à leur secours. Dans ma tête, il m'invite. Dans la coupe d'or, Onyxas le magicien fait son mélange, il y verse la drogue. On a aussi des temps du passé. Alkinous, roi des Phéaciens, me dit lui raconter une histoire où je suis parvenu à survivre. J'étais sur mon navire avec mes compagnons. Soudain, je sentis un petit gémissement sur le navire et puis un géant raz-de-marée surgit de l'est. Alors, ça va plus loin, c'est-à-dire que déjà, je trouve qu'au niveau des éléments stylistiquement, au niveau de ce qui relèverait de l'énonciation, tout est en place. Je trouve que globalement, on n'a pas véritablement, je trouve, d'erreurs dans les propositions des élèves. Mais par ailleurs, je souhaiterais montrer maintenant que les incipits écrits par les élèves portent les marques du genre de texte introduit et ils construisent un code de lecture avec le narrateur. Et donc je vais aborder les modalités d'ouverture et la fonction codifiante de l'incipit. Alors, premier point, description d'un état qui sera perturbé ultérieurement. Alors, le héros est seul ou avec ses compagnons sur la nef. Ghislain, j'avais encore quelques compagnons sur la nef. Louise, je naviguais tranquillement sur une galère avec mes compagnons et mes galériens sur la mer Égée. Chloé, je suis sur mon nef, j'étais tout seul. Ensuite, intervention immédiate de la force perturbatrice. Wang Zhug, j'étais près de rentrer chez moi par le vent de Circé. Par malheur, mes compagnons Altinos et Euraloc ont ouvert les outres données par Ludovic. C'est moi qui ai coupé le texte. Ludovic, excusez-moi. J'étais sur le point de partir de sur ma nef quand un terrible orage se déchaîna. J'écoura dans une grotte quand un centaure s'approcha de moi. Les circonstances maintenant de temps et de lieu, donc fonction informative de l'incipit, topos du lieu, chez les Phéaciens. Mohamed, Alkinous, roi des Phéaciens, me dit de lui raconter une histoire où je suis parvenu à survivre. Acitère, donc, deuxième lieu, Laura, Ulysse aborde l'île de Citère, où demeure le magicien Onyxas. On a également la fonction séductive, intéresser le lecteur, donc topos du personnage. Mohamed, Alkinous, roi des Phéaciens, me dit de lui raconter une histoire où je suis parvenu à survivre. Audrey, Ulysse, après avoir fêté ses retrouvailles avec sa femme Pénélope, se fait questionne sur ses aventures par sa bien-aimée et lui raconte donc sa rencontre assez mouvementée avec Aséidon. Alors, donc la question que je voudrais poser maintenant, c'est comment évaluer les textes de ces élèves. Donc, je suggère de les considérer comme des textes à part entière. Alors, ce qui n'est pas assez explicite dans l'évaluation, c'est la hiérarchie entre savoir raconter et savoir écrire en français sans commettre d'erreur. Alors, les deux compétences sont indissociables dans le cadre de cet exercice, mais la compétence narrative est sous-évaluée par rapport à la maîtrise de la langue, alors qu'elle devrait être prioritaire dans cet exercice. Ce qui fait que, en fait, ces textes, parce qu'ils ne sont pas conformes aux règles orthographiques, alors qu'ils sont conformes aux règles d'écriture, sont, en tout cas dans un certain nombre de cas, sanctionnés et considérés non acceptables parce que peu lisibles et non acceptés en fonction d'un implicite de lecture de l'évaluateur qui attend en fait un texte de base conforme au texte source et qui ne se place pas dans le cadre d'une production spécifique qui serait proposée par l'élève. Donc moi, ma proposition est la suivante. Il s'agit en fait d'un mode pragmatique de communication qui fonctionne de manière tout à fait pertinente puisque on a bien, alors je vais être un peu technique, le principe de la structuration thème-rem, c'est-à-dire qu'on place les éléments qui expriment des informations déjà données avant ceux qui expriment des informations nouvelles. On a aussi le principe de la connexité sémantique, c'est-à-dire qu'on place les éléments qui sont liés du point de vue de leur signification à proximité les uns des autres. Donc même si l'infraction orthographique elle est claire, au niveau pragmatique et sémantique, en fait, le texte est pertinent, si on en croit les principes que j'énonce. On a également un respect du principe de l'orientation, c'est-à-dire qu'on place au début de l'énoncé les éléments d'orientation, c'est-à-dire les indications de lieu, de temps et de modalité. En tout cas, c'est ce qu'on voyait au niveau des incipit que j'ai proposés. Et enfin, on a le principe de l'ordre naturel, c'est-à-dire qu'on rapporte les événements dans l'ordre de leur succession effective. Donc en réalité, si on prend tous les principes, alors ces principes, ils ont été énumérés par William Klein, donc dans un ouvrage qui s'appelle « L'acquisition de langue étrangère », hein, qui est un classique, je dirais, du genre, donc pour mémoire, donc je renvoie à William Klein. Mais je voudrais dire pour conclure que on pourrait multiplier les exemples et que le corpus que je vous ai proposé n'est pas le seul, puisque un chercheur, Martine Marquillot-Larruy, a observé des phénomènes comparables dans des textes d'élèves qui étaient accueillis en classe d'accueil. Donc elle a montré que sous une multiplicité d'erreurs de nature multiple, elle pouvait observer dans le corpus qu'elle étudiait un respect de la consigne et des principales caractéristiques du genre abordé. Alors en l'occurrence, pour le travail de Martine Marquillot-Larruy, il s'agissait de la lettre. Donc, pour conclure, si vous voulez, je dirais que ces textes présentent une conformité incontestable au principe de l'incipit. Alors, pour conclure maintenant plus généralement cette première partie, l'hétérogénéité linguistique, sociale et culturelle des élèves est à la fois un des traits majeurs du système éducatif et une des causes essentielles de ce qu'on désigne comme la crise du français. Et là, je renvoie à nouveau aux travaux de Jean-Louis Schiss. Alors, cela me permet maintenant de passer à ma deuxième partie, c'est à savoir les perspectives didactiques et quelle prise en compte de la variation. Alors, les difficultés. J'insisterai d'abord sur le fait que les élèves possèdent un savoir sur la langue, mais que la difficulté pour eux est de mobiliser ce savoir le moment venu. Pour l'enseignant, la difficulté est d'organiser et de structurer ses connaissances entre elles. Autrement dit, ce qui est difficile pour l'enseignant, c'est de construire les bases d'un savoir réflexif et métalinguistique chez les élèves. Et par ailleurs, la distance entre le français de l'école et les variétés populaires orales des élèves est un facteur d'exclusion. Donc, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure entre les différents paramètres et les différents champs donc des sciences du langage qu'on pouvait croiser pour aborder le positionnement des élèves par rapport à la langue de scolarisation. Une autre façon de le dire est celle de Lahire, qui écrivait en 1993 « Il existe un conflit intériorisé par les élèves entre une forme orale de pratique sociale et les formes écrites et standardisées de l'école. » Alors, notamment pour tout ce qui relève de la syntaxe et du lexique. Syntaxe de la phrase complexe, par exemple, et lexique abstrait, notamment. Alors, ce que je voudrais aborder maintenant, c'est un remaniement de l'approche de la didactique de la langue. Il me semble qu'une connaissance des traits du français parlé est sans doute nécessaire pour construire une approche comparative avec la syntaxe du français standard écrit de l'école. Et que probablement, il faudrait partir du français que parlent les élèves pour les amener au français scolaire en construisant un système d'opposition pour la syntaxe et pour les registres lexicaux. Alors, c'est ce que une chercheure, Marceline Lapara, écrivait déjà en 1997, à savoir qu'il est important de partir des compétences linguistiques des élèves, malgré leur côté rudimentaire, en cherchant à agir lentement sur elles. Autrement dit, la suggestion, c'est qu'au niveau des apprentissages linguistiques, peut-être qu'il faudrait chercher à cibler davantage quels sont les apprentissages prioritaires. de manière à aller vers l'essentiel, à cibler l'essentiel, et à construire une progression organisée peut-être sur un cycle. C'est-à-dire que peut-être la réitération tous les ans des mêmes notions, sans qu'elles soient forcément acquises par les élèves ou sans vérifier qu'elles sont acquises par les élèves, n'est peut-être pas pertinent au niveau de l'acquisition de la langue de scolarisation. Alors, évidemment, il s'agit ici d'une contextualisation des pratiques d'enseignement. Et cette question de la contextualisation, en fait, elle mérite une discussion au plan institutionnel, parce qu'elle amène à sortir d'un programme et de pratiques didactiques communes à tous les élèves. Donc, à partir du moment où on commence à particulariser, il me semble qu'il est absolument nécessaire, dans un contexte institutionnel, de mener une réflexion justement sur ce choix, qui est un vrai choix didactique, mais pas seulement, qui est aussi un choix de politique linguistique éducative et qui donc doit être fait, je dirais, au sein d'une équipe, voire d'un établissement, voire au-delà peut-être, mais en tout cas qui ne peut pas se faire comme ça sans précaution. Alors, donc, par ailleurs, pour revenir au sujet qu'on m'avait demandé de traiter, la valorisation du plurilinguisme en milieu scolaire ordinaire modifierait aussi la relation des élèves avec le français et les autres langues, et elle pourrait favoriser l'apprentissage du français en faisant l'enjeu essentiel de l'intégration. Donc, une réflexion plus générale sur les situations d'exil et de transculturalité conduisant à des restructurations identitaires. Alors, ça, j'en ai parlé, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est un autre aspect de mes recherches, hein, la question de l'impact des apprentissages dans des situations transculturelles, avec la question de l'impact des restructurations identitaires sur les apprentissages. Mais ça, je n'ai pas le temps de l'aborder ici, et puis on sort un peu, si vous voulez, du sujet qui m'avait été demandé de traiter. Mais il est certain, qu'une réflexion sur le statut des langues maternelles ou secondes serait utile pour aborder des élèves qui ont vécu des situations de mobilité et qui sont l'objet de phénomènes de minorisation et de stigmatisation. Alors, le français peut apparaître à la fois comme une langue valorisée dans la perspective de l'intégration ou comme une langue imposée, minée par la nostalgie d'une identité linguistique, culturelle, enfouie et latente, et qui n'est jamais verbalisée en quelque sorte, si vous voulez, qui n'émerge jamais de manière explicite. C'est la raison pour laquelle, quand, à titre personnel, quand je dis qu'il faut reconnaître les langues de la famille, je ne dis pas, surtout dans une situation où il y a de nombreuses langues en présence, je ne dis pas qu'il faut aller vers un enseignement explicite de ces langues, voire de toutes ces langues, d'un enseignement explicite et organisé, je dirais. Mais je veux dire plutôt qu'il s'agit de reconnaître et de légitimer et de valoriser donc l'existence de ces langues et du plurilinguisme. Alors après, les modalités et la façon dont on s'y prend sont multiples. Et évidemment, il y a toute l'approche du courant d'Evlang qui est particulièrement riche, évidemment, et précieuse pour cette valorisation, mais il peut y en avoir d'autres, et il est certain que plus, je dirais, on développera de réflexions et d'expériences sur ces questions, évidemment, plus on avancera. Alors, la question, ceci étant, que je poserai pour conclure ce point, c'est une contextualisation de l'enseignement est-elle possible au regard de la tradition scolaire, de l'universalisme et de sa légitimité ? C'est bien aussi la question qui se pose au niveau institutionnel et des politiques linguistiques éducatives. Je voudrais aborder maintenant la question de l'oral et de l'écrit dans le contexte scolaire. Donc, comme je l'ai dit au début de mon intervention, il existe des zones de vulnérabilité en français, Donc c'est ce qu'a écrit Jean de Méchis notamment. Donc il serait donc possible de construire une didactique de la langue qui partirait de descriptions de la langue, qui soit dans la proximité des locuteurs, afin de faciliter l'apprentissage du standard, qui est l'objectif. Je voudrais rajouter, parce que là je suis dans une perspective très strictement linguistique, au niveau de description, il serait aussi nécessaire de réfléchir à ce qu'on appelle l'appropriation des langues en contexte, mais que je n'ai pas le temps de développer ici. Je pense notamment à tout ce que développe Véronique Castellotti sur ces questions d'appropriation. Donc c'est aussi une dimension qu'il serait nécessaire de croiser, c'est-à-dire que, je développe juste un peu, il pourrait être intéressant de développer avec les élèves une discussion, même avec des élèves jeunes, je pense que c'est faisable, sur la construction de la dimension formative de l'apprentissage. C'est discuter avec les élèves comment on construit l'apprentissage, c'est-à-dire d'en faire des acteurs de leur apprentissage. Et pas simplement de les asseoir, je dirais, dans la classe et de leur faire un cours au tableau, même avec une approche, je dirais, différente et peut-être au niveau de la description plus appropriée aux pratiques que celle de la grammaire, si vous voulez, scolaire. Mais il n'en demeure pas moins que si on n'amène pas les élèves à devenir des acteurs de leur apprentissage, ils resteront peut-être toujours extérieurs à cet apprentissage. Donc je crois que réfléchir aussi sur les modalités d'appropriation est un élément important. Donc, autre point, la place de la langue dans les programmes scolaires, un français commun, une variété scolaire. Alors, sur un autre plan, je voudrais quand même dire que le français apparaît comme une réalité d'évidence perçue de tous, de nature non problématique. Ça, c'est une approche plus explicitement sociolinguistique. La variété scolaire du français semble se confondre avec la variété standard, décrite dans les grammaires de référence et les dictionnaires, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument jamais discutée, en fait, dans le contexte scolaire. Elle apparaît, je dirais, comme une réalité massive, intangible, et voire sacralisée. Là aussi, peut-être que une prise de distance serait nécessaire pour permettre aux variétés parlées par les élèves peut-être d'avoir une place. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'objectif n'est pas d'acquérir la langue de scolarisation, mais peut-être de s'y prendre différemment. Donc la variété scolaire a un effet normatif unificateur par rapport auquel se disent les écarts, les fautes. Donc quel français faut-il enseigner à l'école, notamment si on prend en considération les situations de mobilité et la diversité linguistique? C'est la question que je poserai en conclusion. Donc pour finir, je dirais qu'il convient de légitimer les langues des migrants qui sont méconnues par l'école, que celle-ci est indifférente quand même, alors peut-être pas universellement, mais quand même dans un certain nombre de cas, elle est indifférente à tout ce qui ne rentre pas dans son champ institutionnel, que le plurilinguisme est une richesse culturelle, une aide à l'apprentissage du français, un atout professionnel ultérieur potentiel. Les risques pour les élèves, ce sont les situations de migration qui conduisent à une rencontre des cultures qui peut être vécue comme très déstabilisante du fait de son poids sur la construction identitaire des sujets, même de deuxième génération, que l'autre risque, c'est le trouble ou la perte de l'identité. Alors je renvoie à tous les travaux sur l'anomie, ils sont nombreux, là je n'ai pas le temps de les développer, mais ils ont été développés par la sociolinguistique, notamment par les sociolinguistes catalans, mais également les créolistes en ont parlé. Tout ce qui relève de la souffrance liée à la langue résultant des différences culturelles, il y a de nombreux travaux sur ces questions, je ne développe pas. L'apprentissage en situation transculturelle donc suscite une forme de vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle est liée au flottement démarcatif entre langue maternelle et langue seconde. Là, je n'ai pas eu le temps de développer, mais ces catégories méritent aussi d'être déconstruites et reconstruites. De là peuvent découler des troubles de l'apprentissage de la langue de scolarisation. Ces troubles de l'apprentissage du français ne sont pas toujours bien évalués en milieu scolaire ordinaire et peuvent faire l'objet d'un déni. Le modèle scolaire universaliste ne fait pas contrepoids aux tensions issue de la situation transculturelle, même s'il a pour vocation d'estomper les différences. Les limites du modèle universaliste, c'est le lissage de la diversité linguistique et culturelle. La diversité linguistique est parfois assimilée à une manifestation de l'ethnicité. Et à l'école, la visibilité ethnique est occultée. Cette occultation la rendrait d'autant plus conflictuelle. C'est l'occultation qui rend les choses conflictuelles. Donc, les préconisations, si l'on peut dire, en termes de politique linguistique éducative, ce serait de prendre en compte les langues de la migration dans le cadre scolaire. Alors, les prendre en compte ne signifie pas les enseigner toutes de manière systématique. Hein. C'est pas du tout le sens de mon propos. Ce serait aussi d'assouplir la norme monolingue, d'aller vers une réflexion globale sur la question de la diversité culturelle et linguistique à l'école et du développement d'un enseignement du français en lien avec les autres langues, en considérant que le français est aussi une langue. Voilà. Et ce sera sur ce point que je m'arrêterai. Et je vous remercie.